Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle de 18h à 19h. Vous allez pouvoir entendre la deuxième heure d'émission consacrée à la privatisation, à la marchandisation du vivant ainsi qu'à la biopiraterie. C'est donc la seconde partie des extraits, des interventions et aussi d'échanges avec le public lors de cette rencontre qui s'est déroulée le 7 décembre dernier à la Paillasse, maison du libre et des communs.
Cette session a été proposée par la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes, et elle était effectivement animée par moi-même, Yovan Gilles, des Périphériques que vous parle. La biopiraterie fait référence à la privatisation du vivant et des savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par le biais de brevets. Les biopirates sont les entreprises, en particulier pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires, ainsi que les instituts de recherche qui s'approprient des plantes ou semences, ainsi que les connaissances et savoir-faire sur ces ressources à travers la propriété intellectuelle et les droits affiliés.
Vous allez maintenant pouvoir entendre Ludovic Pierre, qui est représentant de la JAG, la jeunesse autochtone de Guyane.
Christophe Pierre, qui est aussi mon frère, a bien résumé la situation, on va dire, administrative vis-à-vis de toutes ces pratiques de biopiraterie et surtout de reconnaissance de nos savoirs. Et disons que j'aimerais bien intervenir sur, plus sur le rapport entre justement le savoir et les communautés et comment nous vivons et nous portons notre regard sur tout ce qui est science en fait et science dans une société. Je vais commencer par dire que pour comprendre tout type de savoir en fait, il faut le comprendre dans le contexte. Et les méthodes en fait scientifiques qui sont utilisées du coup montrent très bien que la société dominante en fait occidentale, etc. prend juste un objet dans quelque part et l'utilise comme il le voudrait en fait. Et c'est, disons que c'est un premier manque de respect de notre point de vue, dans le sens où comme il n'y a pas la reconnaissance du coup de tout le travail et tout l'héritage qu'il y a derrière, et bien ça minimise beaucoup notre rapport à, disons, à une connaissance une science juste humaine en fait, c'est-à-dire les connaissances de groupes humains comme n'importe quel groupe humain en fait, et surtout dans ceux qui font partie de la société de l'humain. Ça c'est un premier point, et ce que j'aimerais apporter aussi c'est du coup beaucoup interroger en fait vous interrogez vous plus en fait comment vous percevez la science dans la vie, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est pour vous, et imaginez ce que c'est pour nous, en fait, nos connaissances. C'est juste ça qu'il faut mettre en lumière, en fait, parce que le combat n'est pas juste juridique, le combat n'est pas juste administratif, le combat est aussi dans la conscience populaire, en fait. C'est-à-dire que c'est l'une des méthodes en fait pour effacer notre existence dans ce monde. C'est d'abord d'effacer de la conscience populaire en fait, de la population, des villes, etc. qui est une des premières on va dire armes contre nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'exprime, que ce soit par exemple en Guyane ou ailleurs, il y aura forcément une incompréhension de nos revendications. En tout cas, il y aura beaucoup d'éléments qui ne vont pas être compris en fait, parce que nous n'existons pas en fait dans la conscience collective, que ce soit en France ou ailleurs. Et du coup, ça permet en fait, ça favorise plutôt des pratiques de ces organismes, de ces institutions vis-à-vis de nous en fait, que ce soit négation de notre identité, dans la négation de notre apport à l'humanité, en fait. Et pour moi, en fait, c'est l'un des combats qui doit être mené, c'est faire revivre, en fait, plusieurs de ces concepts, nous devons discuter de ces concepts aujourd'hui où on peut discuter de ça. Parce que dans les décennies qui ont précédé, on n'avait pas autant accès à une médiatisation, on n'avait pas assez de possibilités de discuter avec d'autres personnes, en fait. C'était principalement avec des institutions. Et comment, en fait, aujourd'hui réfléchir sur nos luttes? Comment faire rejoindre nos luttes à des moments donnés, justement en cette période où il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de mouvements sociaux, etc. Et du coup, comment faire vivre, en fait, notre combat, enfin, vis-à-vis de, en fait, presque pratiquement des mêmes institutions, en fait, qui nous ont mis dans des situations comme ça. Donc c'est là-dessus que j'aimerais plus intervenir, en fait, parce que du coup, l'aspect juridique administratif est facilement accessible, en fait, via des articles, sans s'informer un peu, c'est accessible. Mais le regard populaire, le regard communautaire, c'est dans ces espaces-là que, justement, on peut en discuter. Et dans un deuxième point, en fait, j'aimerais intervenir, c'est par exemple dans une question qui paraît assez inoffensive, en fait, c'est dans la cuisine, en fait. Pourquoi je vais parler de ça? C'est peut-être ça, pour la première vue, il n'y a rien à voir, mais en fait, dans la cuisine, et la valorisation, en fait, des cuisines du monde ou de l'art culinaire, que ce soit en France ou ailleurs, l'art représentatif d'un pays, par exemple, mais il y a toujours, même là, il y a cet aspect-là on efface beaucoup notre héritage dans la cuisine, que ce soit en Guyane, que ce soit ou ailleurs, en fait. Parce que beaucoup des fruits, des légumes, etc., sont d'abord venus d'Amérique, en fait. Il y a beaucoup de ce que l'on retrouve dans les marchés qui sont là-bas, qui sont ou en Asie. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation simple, en fait. Par exemple, si moi, je suis entrepreneur, je suis cuisinier et que j'utilise des produits de Guyane, d'Amazonie plus généralement, qui sont originaires de là-bas et que je fais de la cuisine et que je présente une restauration amazonienne, on va dire, eh bien, ce sera directement associé à une cuisine métissée, en fait, et pas autochtone. Parce que on va refuser, en fait, ce côté-là de aujourd'hui, à l'heure actuelle, que la cuisine, en fait, ce soit juste, comme c'est accessible à tout le monde, comme c'est très populaire, comme en fait, déjà, il n'y a pas cette reconnaissance autochtone, et ben, quelque part, on va me dire que oui, mais la cuisine que tu fais, ce n'est pas autochtone, en fait, c'est déjà métissé. Et on va nous restreindre, en fait, par exemple, si je fais du manioc, de la cassava, etc. Oui, là, c'est autochtone parce qu'il y a, à l'heure actuelle, en fait, jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en consommaient, en fait, de la manière dont nous, on consommait le manioc. Du coup, oui, là, c'était identifié comme étant autochtone. Au-delà de ça, en fait, on ne peut pas aller dans l'innovation, dans la cuisine, on ne peut pas mettre une étiquette autochtone. Voilà. Et ça, c'est beaucoup dû, en fait, à l'imaginaire collectif, en fait. C'est-à-dire qu'on ne nous autorise pas à innover à l'heure actuelle. Et du coup, ça rejoint ce que Marion disait tout à l'heure, à cet aspect-là traditionnel, ancestral, etc. C'est-à-dire que notre héritage doit être figé dans un contexte passé, en fait. Et pas du tout être innovant et adapté, en tout cas, à l'heure actuelle. C'est parce qu'on nous interdit ça quelque part. C'est ce qu'on appelle la négation d'identité, en fait. Et pour en revenir au sujet, du coup, ben, c'est si cette façon-là d'être, en fait, cette méthode-là de négation, nous empêche aujourd'hui de dire qu'on a des scientifiques autochtones, en fait. Des scientifiques qui n'ont pas besoin de faire de diplôme pour pratiquer, etc., mais qui ont des connaissances. Donc moi-même, les connaissances ne viennent pas comme ça, en fait. Il faut un apprentissage, il faut des expérimentations, il faut des échecs aussi, et surtout, il faut un protocole. J'ai fait des études en sciences, et c'est ce que on nous apprend, en tout cas dans les universités. Pour valider qu'une science est science, il faut établir un protocole. Et il y a différentes étapes, en fait, pour valider ce protocole. Et bien, chez nous, c'est pareil, on ne s'autoproclame pas scientifique dans notre communauté, mais il y a un long processus d'apprentissage, en fait. Ça peut aller de l'enfant jusqu'à un âge assez avancé. Et du coup, en fait, quand on emploie des termes ancestraux, et etc., on nous enlève ça aussi, en fait, ce côté-là d'innover. C'est-à-dire que les détenteurs de connaissances poussées chez nous sont nos aînés, peut-être ne l'ont pas reçu de la même façon qu'il y a 100 ans, en fait. Ben, du coup, ben, moi, si je me forme à ces connaissances-là, aujourd'hui, je vis ici en France, mais c'est quand je retournerai en Guyane, du coup, si je me réapproprie, en fait, ces connaissances, et bien, du coup, je ne vais pas le recevoir de la même façon que lui, il la reçoit, en fait. Et c'est pour ça que le savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le savoir, en fait, est vivant. Et c'est ça qui rend puissant, en fait, le discours. C'est-à-dire que il ne faut pas figer le savoir dans un temps donné. Et les études, etc., justement, on doit les prendre comme des témoins de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a étudié comme ça, on avait des types de connaissances, et que ces connaissances-là, entre-temps, ont évolué, en fait. Voilà à peu près ce que je veux dire. Mais j'aimerais surtout, comme j'ai dit, c'est un espace de discussion, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, parce que du coup, je ne pourrais pas, en fait, dans une intervention, répondre peut-être à toutes les interrogations que vous avez.
Peut-être la science qu'on évoque, que vous évoquez, la rationalité scientifique que vous évoquez, moi, ce qui a émergé depuis plusieurs décennies, c'est ce qu'on appelle la technoscience. C'est une forme de science dont justement la raison d'être principalement c'est la recherche finalisée avec une application commerciale directe. Et effectivement, vu que la définition de la nature, c'est quand même ce qui n'est pas produit par l'être humain, la nature c'est tout ce qui n'est pas produit par l'être humain, puis à ça, tout ce qui est un ensemble de créativité intrinsèque avec des phénomènes de résilience et des phénomènes au contraire d'excroissance et de fulguration permanente, ce qui est inventé par ces scientifiques au nom de la rationalité scientifique, parce que c'est là comme ça qu'il se crée une impunité. C'est dit, ils isolent un principe actif, ils n'ont pas inventé. Ils l'isolent, ils le décrivent au niveau de la structure atomique ou moléculaire, et ils font une petite modification qui leur permet une appropriation abusive. Mais ils n'ont rien créé, justement. C'est le problème qu'on a connu avec les semenciers industriels, hein, pour créer des variétés. Ils n'ont pas créé les variétés des casseurs. On avait fait une intervention sur le problème des semences paysannes, parce que nous aussi, ici, les paysans en métropole, pareillement, ils ont été colonisés. Ils se sont fait piller leur savoir traditionnel par rapport à la maîtrise de leurs semences natives et le re-ensemencement. On leur a vendu des semences industrielles qu'ils les rachetaient chaque année. Donc, ils ont été spoliés aussi de leur connaissance par rapport à leur pratique agriculturelle. Mais je pense que ce qu'on a cité, il ne faut pas confondre à mon sens aujourd'hui ce qu'on appelle la science, la recherche fondamentale. Par exemple, des gens comme Jacques Testard, vous direz, la recherche fondamentale, il y en a de moins en moins, il y a plutôt beaucoup plus de recherches finalisées, avec une prédominance quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui la technoscience, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la science est utile dans des... Il y a aussi une science qui essaye de se réinventer dans son rapport à la nature, avec le biomimétisme, avec plein de choses comme ça. Et ce qui prédomine aujourd'hui, c'est une science qui est complètement liée à des applications commerciales très rapides et qui aboutissent souvent à des connaissances superfétatoires par rapport au cadre de ce qu'on appelle la gadgetisation du réel. C'est comme vos téléphones portables, vous avez 100 000 applications débiles qui arrivent, qui émergent chaque jour, sans que ça serve à grand chose. Par contre, au niveau du marketing, c'est très attrayant, et les jeunes, et les moins jeunes, et les adultes, et les personnes âgées achètent tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, technoscience, science, à mon avis, il faut.
Voilà. Je me suis tourné vers mon ami Brahima qui est là, qui est de Guinée, et qui est peu. Comment se fait-il, et je me pose cette question, comment se fait-il que. Dans les peuples d'origine indienne, on appelle les peuples autochtones, alors que dans les peuples d'origine africaine, n'existe pas cette notion, par exemple. Et j'enchaîne sur le fait que quand j'étais au Sénégal, j'ai eu mon ami Salih Ouad qui, justement, fait tout un travail pédagogique autour des ingrédients et des recettes traditionnelles africaine du Sénégal, donc c'est créer la compagnie du bien manger autour de ça. Bon, mais du coup, dans ce que vous avez dit, que même si vous innoviez dans la cuisine, par exemple, ça serait juste considéré comme une cuisine fusion. Et ben, j'aimerais bien que vous reveniez sur. Voilà, il y a trois questions dans ce que j'ai dit, je crois.
Vous allez maintenant entendre Daniel Joutard, entrepreneur et membre du comité scientifique de la Fondation Daniel Mitterrand, qui a créé la marque Aini, une marque de cosmétiques bio engagée contre justement la biopiraterie.
Je vous en prie, je crois que c'est Einstein qui disait que la magie et la science, c'est deux manières différentes de dire la même chose. Du coup, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que disait Ludovic justement, et moi c'est ça qui m'a fasciné, c'est les rapports entre la magie et la science. Et c'est ce qui m'a conduit à créer, il y a quasiment 15 ans maintenant, une entreprise qui a donné naissance à une marque qui s'appelle Aini, dont on va dire l'objectif ou l'idée initiale était de travailler sur des plantes rituelles, des plantes magiques, en faisant dialoguer justement magie et science. Et du coup, moi, je vais vous parler d'un point de vue du praticien qui va avoir comme matière première la connaissance des peuples autochtones, notamment péruviens, et de la valorisation de la biodiversité qui y est associée. Pour vous redonner un petit peu des éléments de contexte, moi je viens plutôt du monde de l'entreprise, assez classique, j'ai fait une école de gestion, je suis parti travailler dans des cabinets de conseil en stratégie pour des grosses structures, mais toujours en faisant des allers-retours avec l'Amérique latine, notamment en Équateur ou au Pérou, où j'avais travaillé au sein de communautés autochtones dans des ONG. Et c'est ce dialogue justement et ces allers-retours qui au bout d'un moment m'ont donné envie de créer Aini, avec l'idée que je vous ai décrite, mais évidemment en réfléchissant à la manière la plus juste de faire cette entreprise-là, je voulais pas quitter une situation matérielle confortable pour me lancer dans une aventure dont je serais pas fier. Et pour moi, la fierté passait par essayer de faire des choses justement, puisque j'allais travailler avec des gens qui étaient devenus mes amis. Et par conséquent, il était important pour moi de créer la structure en prenant complètement en compte le point de vue des communautés autochtones avec lesquelles je travaillais. Et du coup, je partageais un petit peu cette expérience-là avec vous. Alors, quand il s'est agi de réfléchir justement à cette entreprise et à cette marque, à sa philosophie, très vite s'est posée du coup la question de qu'est-ce que ça veut dire valoriser de manière juste une connaissance et une plante qui est associée, sachant que cette démarche-là, elle est née en 2005. Donc, pour vous donner le contexte, Nagoya a eu lieu simplement en 2010. Donc, on ne parlait pas encore d'APA, de partage des connaissances. La biopiraterie, elle, était malheureusement déjà présente. Et du coup, il fallait travailler et réfléchir à créer un système en alternative à cette biopiraterie sans qu'il y ait un cadre qui soit posé. Donc, on a fait un diagnostic avec les communautés autochtones. Moi, je travaillais encore essentiellement donc, au Pérou, avec des communautés Achaninka de la selva centrale du Pérou, et notamment avec la CECONSEC, qui est une organisation de la forêt centrale du Pérou, qui représente à peu près 40 000 Hachaminka. Et la Hachaminka, c'est un des premiers groupes culturels, ethniques, autochtones d'Amazonie péruvienne. Sachant que vous avez aussi un groupe culturel important dans les Andes avec les communautés quechua. Et donc du coup on a travaillé avec la CECONSEC pour se dire qu'est-ce que ça veut dire valoriser ces connaissances et ces plantes de manière la plus juste possible. Et le diagnostic qu'on a posé, le premier élément, c'était de se dire le commerce équitable, ça a payé des plantes un peu plus chères, et certes nécessaire, mais c'est pas la bonne solution. Pour quelle raison? Parce que nous on travaille dans la cosmétique, et ce qui fait la valeur d'un produit cosmétique et ce qui fait que les gens ont payé finalement relativement cher, c'est à la fois une histoire qui va attirer l'attention, et c'est une efficacité réelle ou perçue du produit. L'histoire, elle va se nourrir de la plante, elle va se nourrir également du savoir traditionnel, et l'efficacité, elle va se nourrir de nos recherches. Nos recherches s'inspirent complètement du savoir traditionnel aussi. Donc finalement, il y a une contribution du peuple autochtone avec lequel on travaille à la création d'une valeur immatérielle. Et le commerce équitable récompense ou rémunère un savoir de production et un savoir qui est matériel, mais il ignore finalement toute la connaissance immatérielle qu'il faut rémunérer parce qu'elle apporte une valeur qui est décisive à la valeur finale du produit. Donc c'était le premier élément de diagnostic, c'est celui-ci. Le deuxième élément de diagnostic qu'on a posé, c'était de se dire que le brevet est absolument illégitime. On en a pas mal parlé déjà, je pense que Ludovic et Marion l'ont déjà un peu couvert. Nous, la remarque qu'on faisait, c'était que finalement, personne ne se balade dans la forêt par hasard, trouve des plantes par hasard et trouve un principe actif par hasard. Tout le monde va s'inspirer d'une connaissance locale qui va nous orienter dans certaines directions pour faire nos recherches. Et finalement, scientifique, ce n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne d'innovation. Et du coup, il y a une espèce d'injustice absolue qui ferait que ce dernier maillon, parce qu'il a la connaissance du langage scientifique dominant, parce qu'il a la connaissance de la propriété intellectuelle, va réussir à privatiser une plante et à capter les ancêtres de la valeur liée à cette plante et à ce sort traditionnel. Et là-dessus, moi, je vais être un peu plus relatif par rapport à la piste que proposait Thomas, qui consistait à dire bah oui, ok, le brevet, pourquoi pas finalement s'il est partagé avec les communautés autochtones. Le problème, c'est qu'une connaissance via une plante, c'est un savoir qui est collectif, c'est pas un savoir qui est commun, c'est pas un savoir individuel, c'est un savoir qui est collectif. Et la problématique, c'est de définir la limite de cette collectivité-là. Et souvent, si vous faites un accord avec un peuple, le peuple d'un côté aura la même connaissance, et parfois les peuples sont sur deux pays différents, donc finalement ça devient inextricable. Et au final, la meilleure solution est sans doute la plus juste, et de se dire de refuser absolument la privatisation et le brevet quand c'est possible dans son absolu. Et le dernier élément de diagnostic qu'on avait posé, c'était le fait que finalement, moi je vous parle d'un contexte latino-américain et plutôt péruvien et équatorien, dans lequel les organisations autochtones sont assez fortes. C'était de se dire que finalement, le bon niveau d'interlocuteur pour ces sujets-là, c'est l'organisation autochtone. C'est pas le village, c'est pas l'organisation producteur, c'est l'organisation autochtone, parce que ce sont, finalement, quand les entreprises partent, quand les ONG partent, ce sont les derniers maillons qui défendent la culture qu'ils représentent. Et c'est souvent des gens qui ont un niveau, une puissance de négociation, une capacité à négocier qui est bien supérieure à un chef de communauté ou un chef de coopérative. Parce que finalement, c'est des gens qui se retrouvent en première ligne vis-à-vis des compagnies pétrolières, des compagnies d'extraction. Donc c'est souvent des gens qui ont un niveau politique extrêmement élevé, et c'est ceux qui sont en train d'établir un rapport de force, on trouve, au moins équivalent par rapport au pouvoir de négociation que je pouvais avoir en tant qu'entrepreneur européen venant travailler avec ces communautés-là. Et donc sur ce diagnostic-là qui a été posé, donc avec ces trois éléments-là, on a proposé une alternative, qu'on a décomposé, symbolisé nous en trois cercles concentriques. Le premier, qui est la relation à la plante au producteur, pour faire simple, on a mis en place un système de commerce équitable, un prix juste pour des plantes de qualité. Mais comme je vous l'ai dit, pour nous, c'était pas suffisant. Il faut aussi payer cette valeur immatérielle. Et donc, du coup, évidemment, on a négocié un accord avec l'organisation autochtone, donc la CEPONSAC, qui représente à peu près une centaine de communautés autochtones à Chalinka, à peu près 30 à 40 000 personnes. Et cet accord-là prévoyait essentiellement trois choses. Un, il nous autorise à travailler une liste positive de plantes. C'est-à-dire qu'en fait, on négocie on négocie qu'avec la CEPONSAC la liste des plantes qu'on veut étudier. Donc, ils nous ont autorisé certaines qui sont qu'un pouvoir symbolique qui est trop fort. Ils en autorisent d'autres. Ça, c'est le premier élément de notre contrat. Le deuxième élément de notre contrat, c'est qu'évidemment, on s'interdit sous aucun prétexte de déposer des brevets qui sont liés aux plantes et à leur connaissance. Et le troisième élément, c'est qu'on prévoit le partage de cette valeur matérielle en reversant un pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'organisation indienne, avec à charge pour elle de financer des projets destinés à préserver la biodiversité et la culture des gens. Sachant qu'ensuite, l'usage de l'argent est fait complètement de manière complètement discrétionnaire, et c'est eux qui en sont responsables, nous on n'a pas notre moyen là-dedans.
C'est quel pourcentage ?
Alors le pourcentage a évolué, on a été trop ambitieux au démarrage, on avait négocié 4%, on n'a pas été capable de les tenir, on les a baissés à 2%. Mais ça a fait l'objet de notre négociation, bien entendu. Avec eux, disons que c'était 4% quand on n'avait pas beaucoup d'argent, et qu'on en avait plus et qu'on en perdait quand même par ailleurs, on a été obligé de baisser, parce qu'on n'avait pas tenu le rythme. Ça, c'est le deuxième principe, si vous voulez, qu'on a négocié, donc c'est effectivement ce contrat signé avec la CEPONSAC. Et le troisième principe qu'on a mis en place, c'était la logique du bien commun. Finalement, vous avez un, le groupe de producteurs, les gens qui sont en relation directement pour l'acquisition des plantes, deux, la communauté les représentants des communautés indiennes avec la CEPONSAC. Et troisième point, qui était le bien commun, qui consistait à dire on s'attribuait, ou en tout cas on avait pour ambition d'avoir une fonction politique, et donc on voulait participer à la lutte contre la piraterie, et on a donc décidé d'attaquer des brevets d'entreprises françaises sur des plantes péruviennes. Et c'est là où on s'est allié à la fois avec la Fondation Daniel Mitterrand, avec la Commission nationale de lutte contre la piraterie péruvienne, qui est un organisme d'État péruvien qui est chargé de manière assez offensive de défendre la biodiversité et les savoirs traditionnels péruviens en attaquant des brevets. Et c'est ce que nous avons fait à partir de 2006, de 2006-2010, où on a engagé un combat à peu près de 4 ans pour casser deux brevets sur la plante du Setchanchi, qu'a cité Marion, et vous avez donc vu des photos, qui est une plante qui est très riche en oméga 3, en oméga 6, qui a des applications assez intéressantes en cosmétique. Pour notamment des applications anti-âge et manque de vol, j'allais dire, entre guillemets, pour les entreprises qui ont déposé des brevets, et heureusement pour nous, qui est une des rares plantes péruviennes d'Amazonie qui a des usages explicites en cosmétique par les communautés autochtones. L'approche autochtone de la beauté, elle est plutôt assez intégrale, et ils ont quelques plantes qu'ils utilisent de manière assez littérale en cosmétique, et c'était l'une d'entre elles, ce qui a facilité évidemment la lutte contre la piraterie dans ces deux cas-là. Alors pour tirer un petit bilan de ces activités et du système qu'on a mis en place, une de nos réussites principales, c'était celle-ci, ça a été justement d'arriver à porter le combat de la biopiraterie avec un succès certain, modeste mais certain. Le deuxième succès, je pense, qu'on a eu de manière collective, c'est de faire que finalement aujourd'hui, c'est devenu assez difficile pour l'entreprise de notre secteur de déposer un brevet sur un savoir traditionnel littéral. Et ça, c'est ce que je vais appeler la biopiraterie de première génération qu'on a pu observer dans les années 90 et de 2000 à 2010. C'était les entreprises ou l'institut de recherche qui allaient littéralement copier un savoir traditionnel, déposer un brevet dessus et prétendre avoir inventé la chose. Ça, je pense que ça n'existe quasiment plus. Parce que les entreprises maintenant ont conscience de ça, donc je pense que c'est à notre crédit collectif, on va dire, même si ça porte des limites. Je pense qu'il faut que nous on garde une très grande modestie par rapport à tout ça, parce que les enjeux, les défis sont assez importants sur ce sujet. Le premier, c'est de se dire que la biopiraterie, au niveau d'une communauté autochtone, c'est un sujet qui est important mais pas forcément urgent. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, les gens avec qui on travaille, ils sont confrontés à des menaces qui sont à très très brève échéance. Donc, je pense que Ludovic a bien décrit, c'est que la bioterapie, c'est une remise en cause du génie créatif des peuples autochtones, ce qui est absolument insupportable, et c'est la négation de leur créativité. Mais nous, en tout cas, les communautés avec lesquelles on travaille, je pense qu'en Guyane, c'est pas forcément très différent. Elles sont confrontées à des entreprises qui vont prélever du bois de manière sauvage. Elles sont soumises à des entreprises qui vont faire la prospection pétrolière. Et c'est des enjeux et des dangers qui sont ici et maintenant et qui sont complètement existentiels. Ce qui fait que parfois le combat sur le piraterie, il est important, mais il est peut-être moins urgent que ces combats-là. Donc c'est peut-être la première limite de notre action. La deuxième limite, c'est que finalement, quand on reste une structure microscopique, donc notre impact il est complètement marginal, il est symbolique essentiellement. Et ensuite, la bioterapie à nu, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu la bioterapie de la première génération, maintenant vous en avez une deuxième génération, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus subtile, dans le sens où les scientifiques vont observer un savoir traditionnel local et vont déposer un brevet sur quelque chose qui va s'inspirer du savoir scientifique, du savoir traditionnel, sans le copier. Donc je vous donne un exemple. Vous observez une plante qui cicatrise et vous savez que la cicatrisation, ça peut vous donner des orientations ou des indices pour une action antivée. Et vous déposez un brevet d'une action antivée. Le savoir traditionnel, il est sur la cicatrisation. Le savoir breveté ou le brevet, il est sur l'antivirus. L'un n'existe pas sans l'autre, mais ce n'est pas une copie, c'est pas un copier-coller, donc beaucoup plus difficile à attaquer et à dénoncer en tant que biopiraterie. Et le dernier danger, pour moi, qui est encore plus critique par rapport à nos combats, c'est que c'est finalement assez facile d'attaquer des entreprises françaises sur la biopiraterie, parce qu'aucune entreprise française ne peut tenir longtemps l'attaque du fait de voler le savoir des Indiens. Et si je me rappelle, en 2006, quand le cas sur cette chaîne fiscale a existé, il y avait deux brevets d'entreprises françaises, enfin deux brevets et des entreprises françaises sur le SACMC. Et maintenant il y en a une trentaine, dont 18 d'entreprises chinoises. Et là, le problème se pose un petit peu différemment, parce que je pense que la sensibilité des entreprises chinoises à la piraterie est bien moins forte que celle des entreprises françaises. Et finalement, c'est presque plus facile d'attaquer une entreprise française là-dessus qu'une entreprise chinoise. Donc je pense que ça va être aussi un nouveau défi assez important dans notre combat sur ce sujet-là. Voilà ce que je pouvais vous en dire.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel jusqu'à 19h pour l'émission des périphéries que vous parle, et nous sommes en train d'écouter les extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien Commun à Paris le 7 décembre dernier sur le thème « Marchandisation et privatisation du vivant, appropriation des communs naturels et des savoirs associés ». Cette session a été proposée par la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes.
La première question, un petit peu, qui n'avait pas reçu de réponse, Leclerc, elle disait qu'effectivement le peuple autochtone était une désignation qui n'avait pas cours, tu disais, en Afrique. C'est ça. Alors, je ne sais pas si l'un de vous peut répondre à cette question.
Du coup, en fait, en ce qui concerne les peuples autochtones en Afrique, je crois qu'il y en a qui sont reconnus en tant que tels, comme les Bushmen ou les Akan, les Pygmées. Mais en termes plus généraux, en fait, c'est vrai que je discute beaucoup avec des collectifs panafricains, etc., qui sont en Guyane ou ici. Et en fait, il faut comprendre l'historique en fait, de la mise en place des droits des peuples autochtones. Et du coup, donc, qui peut être désigné comme étant autochtone. Ce qui est sorti de nos discussions avec les collectifs et les organisations panafricaines, c'est que leur lutte a commencé tout d'abord sur une question en fait raciale. C'est-à-dire, beaucoup se sont tout d'abord revendiqués en tant que noirs. Et c'est donc ça a tout le long en fait le processus. Ça a été une lutte noire, la lutte africaine en fait, de démonstration africaine, est très connotée via le contexte de discrimination raciale connue en Europe ou ailleurs en fait, ou aux États-Unis. Et du coup en fait, la question autochtone n'a pas été abordée sur le continent africain comme il a été par exemple en Amérique. C'est vrai que là-bas du coup les autochtones ont bien été identifiés différents en fait des autres communautés comme les communautés métisses ou les communautés d'afro-descendants en fait. Du coup c'est vrai qu'il y a eu une différenciation, une distinction qui est plus nette, mais très récemment en fait du coup j'ai pu lire un article justement sur cette question là pourquoi justement sur le continent africain où il y a énormément de peuples différents en fait. Comment on ne peut pas les considérer comme étant autochtones? Et justement, c'est parce que la question n'est pas largement abordée, en fait. C'est que la question d'émancipation, par exemple, de ce qu'on appelle des Amérindiens, en fait, qui sont aussi autochtones, mais tout d'abord, moi, je suis tout d'abord Kanien, en fait, c'est mon peuple, et qui a toute une histoire, etc., qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour mener un combat d'émancipation, je suis obligé de passer par ce qui existe dans un contexte international en fait. Et en Afrique, c'était beaucoup sur les mouvements sociaux, les mouvements populaires, au niveau international, sont d'abord considérés comme des mouvements noirs en fait.
Dans le droit international, c'est indigenous peoples et pueblos indígenas en espagnol et peuples autochtones en français. Et ça a été une grosse lutte d'ailleurs pour les peuples autochtones francophones. Que ce soit autochtone et pas indigène, parce que indigène est extrêmement connoté en France, puisque ça renvoie au statut d'indigène. Non, c'est surtout ça renvoie au statut d'indigène, donc quand il y avait l'économie française. Du coup, c'est ça la terminologie qui a été adoptée en droit international.
Alors, dans la définition juridique, je sais pas, je suis pas expert, mais disons que justement, il faut toujours jongler entre la définition international et la définition populaire d'un autochtone. En fait, par le bon avant, l'autochtone, c'est juste celui qui est né là. Comment bien distinguer ce qui est un autochtone, c'est dans le type de revendication rase. Il y aura tout ce contexte-là de rapport à la terre, de rapport à l'identité, en fait, et aussi rapport à une histoire colonial, mais pas forcément seulement européen en fait. C'est-à-dire que par exemple, si on peut parler de néocolonialisme, par exemple au Brésil, qui sont faits par des Brésiliens, sur d'autres Brésiliens, mais qui sont autochtones en fait. Il y a tout ce rapport-là et c'est vrai que. Mais moi, je ne sais pas trop, parce que c'est une définition récente en fait. Au niveau international, autochtone, ça date de quoi? Ça a évolué depuis 30 ans, mais bien avant ça, on était quoi, des Amérindiens, des Indiens, des Indigènes, etc. Mais n'empêche qu'il faut quand même le considérer comme dans son contexte, en fait. C'est un terme qu'on utilise pour lutter, mais ce n'est pas une identité. L'identité, tout d'abord, appartient tout d'abord au peuple, en fait. Moi, mon identité est calinien et je suis autochtone sur le plan international.
Il y avait une question importante, peut-être Daniel et Marie qui peuvent en parler, c'est à l'issue du brevet qui dure 20 ans, dans le cadre de biopiraterie, dès que ces 20 ans il y a expiration, qu'est-ce qui se passe?
En fait, assez simplement, le brevet tombe dans le domaine public. Donc après, vous pouvez avoir plusieurs stratégies d'entreprise. Soit elle va, en général, si l'invention est intéressante, ils vont essayer de rebreveter quelque chose un petit peu derrière, très légèrement différemment, pour recréer le monopole. Mais bon, en théorie, n'importe quel opérateur derrière peut réutiliser la connaissance. Mais le problème, finalement, c'est plutôt ce qui se passe pendant les 20 ans où il y a le monopole qui existe. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une entreprise qui dépose un brevet au nom de la protection de l'innovation, mais le brevet tue l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, au nom justement de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le dernier maillon d'innovation qui dépose le brevet, qui crée le monopole, et finalement, bah, tous les autres innovateurs derrière sont coupés et vont arrêter d'innover justement sur ce qui aurait été déposé. Donc c'est un petit peu le paradoxe du brevet, et c'est pour ça que finalement c'est relativement condamnable, même au nom de la défense de l'innovation, puisqu'au contraire, ça l'a tué, en définitive. Je ne sais pas si vous voulez compléter quelque chose.
Alors, une autre question, j'essayais de la formuler, c'était cool. C'est que des entreprises vont dire, bon bah finalement on brevette parce qu'on fait de l'innovation, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu ça, car avec la numérisation aujourd'hui, notre innovation c'est une modélisation nouvelle des données biochimiques. Par rapport à une plante, donc du coup, on n'a pas de problème de copyright par rapport à la connaissance traditionnelle, mais on invente. Mais du point de vue des nouvelles technologies.
Malheureusement, la Fondation, on n'a pas l'expertise là encore actuellement pour s'y opposer correctement, mais je sais qu'il y a des associations qui sont dessus, et donc j'allais citer Roger, mais en fait tu en fais partie, donc ça, tant mieux. Mais voilà, il y a d'autres structures qui sont plus compétentes que nous pour décrypter en fait comment ça se passe concrètement et comment on peut essayer de s'y opposer. J'avoue que là, on leur laisse la main parce qu'on n'a pas l'expertise en interne, mais c'est effectivement une nouvelle forme de. Une nouvelle forme de pratique, mais c'est aussi une façon qu'aujourd'hui certains acteurs ont de se déresponsabiliser, parce que par exemple sur certaines personnes, qui, notamment de l'IRD, qui écrit des articles sur la biopiraterie pour essayer de se dédouaner et dire de toute façon la biopiraterie c'est pas si grave, etc. Souvent la réponse qu'ils m'ont donnée c'est mais de toute façon aujourd'hui on ne fait plus de recherche en forêt, il faut arrêter tout ce qui est sur les ordinateurs. Alors, probablement que oui, c'est une tendance aujourd'hui et que ça va s'accélérer et qu'on va tout faire effectivement par numérisation, probablement. Mais il n'empêche que là, le brevet de l'IRD, il a bien été fait avec une enquête ethnobotanique. Et quand on voit les taux de rendement, on comprend bien qu'il y a quand même une importance. Donc, c'est aussi une façon de se dédouaner pour certains acteurs de pirates en disant non, mais attendez, de toute façon, arrêtez tout, vous n'allez plus pouvoir lutter, ça va tout se faire par ordinateur. Donc, c'est le seul point que je peux. Que je peux dire pour l'instant. Et sur juste la définition de peuple autochtone de tout à l'heure, je disais, il n'y a pas d'édition en droit international, il y a eu le refus de donner une définition claire du sujet. Et le facteur qui prime, c'est aussi c'est l'auto-identification comme peuple autochtone. Donc en Afrique, il y a des peuples qui se considèrent comme autochtones, les peuls notamment. Et justement, pour parler des peuls, on a remis le prix d'Annie Mitterrand à Indou Maru Ibrahim, qui est justement une peul Mboro du Tchad, qui fait un travail remarquable pour justement faire revaloriser tous les savoirs traditionnels peuls, notamment dans tout ce qui concerne le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc voilà. Donc oui, il y a des peuples autochtones. Effectivement, en Afrique, il y a les Pygmées, comme tu disais, il y a les Amazigh, il y a les Sam, il y a les Bush, il y en a énormément, énormément. Mais l'important, c'est est-ce qu'on s'auto-identifie comme tel. En tout cas, en droit international, c'est comme ça que ça a été posé. Et comme le disait Ludovic, en fait, on en a fait un tout au niveau international parce qu'il fallait imaginer des règles justement pour arrêter le pillage des terres, des ressources, des savoirs de ces peuples. Donc on a fait un grand tout, mais c'est un grand tout qui, comme vous voyez, c'était 5000 langues, c'est donc un nombre infini de peuples de en tant que tel. Donc comme disait Ludovic, il y a avant tout Kalimia, avant tout d'être dans la catégorie autochtone. Et ça c'est important, et c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance du coup à un peu parler des peuples autochtones comme un grand tout un peu homogène. Qui n'est pas du tout le cas. Il y a des grandes tendances, effectivement, comme on disait, un rapport très fort à la Terre, etc. Mais en vrai, c'est un tout extrêmement étagé. C'est exactement le genre d'argument auquel on a le droit. Quand on a attaqué le brevet sur le cochon, pourquoi? Parce qu'on a malheureusement C'était pas de chance pour nous, effectivement, c'est qu'on attaque un brevet qui est lié à une recherche publique, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit ce genre d'acteur qui soit un peu pirate. Et c'était un brevet pour lutter contre le paludisme. Donc effectivement, d'un point de vue de médiatique, en fait, c'était très compliqué parce qu'un article de presse, c'est très court. Donc souvent, l'argument qui était donné, c'était « Non, mais justement, c'est pour votre bien. Vous n'aurez plus le paludisme. » Donc c'est vraiment un argument facile qui nous est souvent opposé. Oui. Mais la question, c'est aussi comment ce médicament est réalisé. Enfin, c'est tout le processus. Monsieur qui est parti tout à l'heure nous parler d'éthique. Oui, il y a aussi une question d'éthique. Comment on aboutit à la réalisation de médicaments. Donc, ça passe par un brevet ou pas. Mais un médicament qui serait développé, qui serait formidable pour l'humanité entière, mais qui serait entaché, je ne sais pas, de pratiques très immorales, est-ce que ça serait pour autant très bien? Enfin, ça serait question aussi le processus, oui, de création de ce médicament.
En fait, la biopiraterie, c'est une pratique, hein, c'est une méthode. Mais ce qu'on dénonce surtout, c'est l'impact que ça a sur nous, en fait. Comme Fanny l'a dit tout à l'heure, du coup, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui oublient. Vu la place de la science dans la société occidentale et vu la place de la société occidentale dans le monde, eh bien, il y a cette tendance-là, même chez nous les jeunes, à plus valoriser la science extérieure que la nôtre, en fait.
On sait que, par exemple, ce qui avait été soulevé à un moment donné, c'était que, au niveau de la juridiction internationale, c'était soulevé par justement Leandro, Larison, de chez vous, qui disait que, bah, vu que les critères de brevetabilité, c'est des bureaux nationaux, et que les critères en général sont pas, il n'y a pas convergence de tous ces critères d'un État à l'autre, aux États-Unis, ils ont d'autres modalités d'analysation des brevets que chez nous. Donc, s'il y a la juridiction internationale, comment elle va pouvoir s'appliquer dans le cadre d'États souverains qui ont leurs propres critères d'attribution de brevets?
Il y a plusieurs choses. C'est soit on a une approche qui est utopique, et ça rejoint un petit peu de questions que j'ai posées et sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure, soit une réponse pragmatique. Moi, là-bas, j'étais plutôt utopique, et finalement, avec le temps qui passe, je deviens pragmatique. Parce que j'avais assisté à la négociation de Nagoya et j'avais discuté avec les négociateurs africains, aujourd'hui je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne votez pas sur les brevets, vous ne votez que sur la part, partage des avantages, et pas sur les brevets. Et ils m'ont dit, parce que les brevets, on sait qu'on ne gagnera rien. Donc on se bat, on ne gagnera rien. On n'obtiendra rien. Donc on se bat sur la part. Parce que ça, on sait qu'on peut avoir quelque chose. Et du coup, il m'avait enseigné un peu de leçon pragmatique. Donc du coup, j'aimerais dire que peut-être la première étape, même si elle est pas complètement satisfaisante, c'est d'arriver à se battre pour que ce genre de choses soit implémentées. Ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. Et sans lâcher quand même pour autant les brevets, et j'ai rebondi un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en France particulièrement, c'est encore pire aux États-Unis, mais c'est vrai en France, il est très facile d'avoir un brevet pour quelque chose. Donc peut-être remonter les seuils d'exigence en termes d'innovation et d'inventivité, pour justement pouvoir mieux combattre la biopiraterie. Si on remonte ces seuils-là, la biopiraterie sera de facto plus compliquée. Pour moi, à mon avis, c'est les deux orientations possibles. Et pour rebondir sur votre question sur l'utopie, vous avez posé la question quel est notre recul sur l'utopie des apatistes et les droits de la nature. Moi, je vous réponds par une citation qui est la citation d'Eduardo Galeano, qui est un Uruguayen, un auteur uruguayen, qui a une citation que j'aime beaucoup, qui est l'utopie comme l'horizon, j'avance d'un pas, je recule d'un pas, j'avance de deux pas, je recule de deux pas.
Vous avez pu écouter des extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien Commun à Paris du 7 décembre dernier sur le thème « Marchandisation et privatisation du vivant, appropriation des communs naturels et des savoirs associés ». Cette session était proposée par la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes, et animée par Jovan Gilles des Périphériques vous parle. Vous avez pu entendre donc Ludovic Pierre, qui est représentant de la JAG, la jeunesse autochtone de Guyane. Marion Weber, vous avez pu également entendre les interventions de Daniel Joutard, entrepreneur et membre du comité scientifique de la Fondation Daniel Mitterrand AINI, une marque de cosmétiques bio engagée contre la biopiraterie et la privatisation justement du vivant. Vous allez pouvoir entendre la rubrique de Léa Lamotte qui co-anime l'association VRAC, qui vise à favoriser le groupement d'achat dans des quartiers sur Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou encore Bordeaux, afin de permettre au plus grand nombre l'accès à des produits issus de l'agriculture paysanne avec des prix bas, grâce notamment à la réduction des coûts intermédiaires tels que les emballages.
Cette rubrique, que Léa Lamotte intitule « Manger le monde depuis Paris », elle se présente elle-même comme une poétesse culinaire voyageuse.
De nouveau, tout commence par une tasse de thé, sucrée, avec du lait et un soupçon de cardamone servi dans un verre en inox. C'est chaud, c'est doux. C'est ce genre de thé qui réchauffe quand Paris se fait pluvieuse. Je suis installée au 24 Caille, dans le restaurant indien Krishna Bravan. C'est à quelques minutes à peine de la gare du Nord, à quelques pas des boutiques de saris dorés et flamboyants, à quelques angles des rues des marchands d'épices et de légumes exotiques. On se croirait presque en Inde, et pourtant, on en est si loin. J'ai rendez-vous avec Naïm Yashlovan, une dame d'une cinquantaine d'années. C'est une petite femme, un peu ronde. Je la trouve élégante et belle, elle porte une veste noire, ses cheveux sombres sont attachés, et entre ses sourcils est dessiné un bindi, symbole du troisième œil. Cette rencontre n'est pas une mais plurielle. Nani est accompagnée par ses deux fils pour l'occasion. Ils jouent à tour de rôle les interprètes, car si Nani parle un peu français, elle est bien plus à l'aise en tamoul. Parlée par le peuple du même nom, qui vit principalement dans l'état du Tamil Nadu au sud de l'Inde et au Sri Lanka, il est estimé que cette langue est née il y a 2500 ans et est restée presque inchangée depuis. En plus de posséder plus de 200 graphies différentes, elle a pour particularité de ne pas avoir le pronom personnel « je ». À l'écouter, c'est presque une chanson. C'est rond. Nani est sri-lankaise, contrairement à ce que l'indication de son restaurant me laissait croire. Elle a quitté Jaffna en 1990 pour fuir la guerre civile. Seconde ville principale de l'île du Sri Lanka après la capitale Colombo, Jaffna a été le théâtre du conflit entre les Tamouls du nord de confession hindoue et les Singhalais bouddhistes du sud de l'île jusqu'en 2009. Les Tamouls de l'organisation séparatiste des Tigres de la Libération souhaitaient instaurer un état indépendant au nord et à l'est du Sri Lanka. Entre 80 000 à 100 000 personnes seraient décédées suite à ce conflit, d'après l'Organisation des Nations Unies. Les parents de Nani vivent encore au Sri Lanka, mais plusieurs de ses 7 frères et sœurs ont fui à l'étranger comme elle. Ils sont désormais dispersés entre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et la France. Nani et son mari, cuisinier de formation, vit donc désormais à Paris avec ses deux fils et sa fille. Je sens sa fierté lorsqu'elle évoque leur parcours. Son plus jeune fils, Gandhi, est ingénieur en aéronautique.
C'est bon pour prendre les diplômes. Moi, je suis content.
Pendant que Nani et son fils, Gandhi, me parlent, je me souviens du Sri Lanka. Du train, du soleil, de l'abondance de fruits exotiques, des plantations de thé, de l'humidité des montagnes et de la chaleur des côtes aux allures de paradis où vont surfer les touristes, de l'agitation des villes, des gens à vélo, des vaches sur la route, des bus chaotiques. De ma brève expérience sri-lankaise, j'ai retenu une vision de paysages idylliques et divers. Je me demande ce que Nani pense de Paris, cette grande ville qui peut être si froide. Nani répète à plusieurs reprises.
C'est pas facile, travailler, la maison, les enfants.
Elle a appris le français avec.
Cours de français à la mairie. Après, encore six mois, français. Après, les enfants nés, un peu le temps, le problème. Hein.
Au moment de son arrivée à Paris et au début de leur installation en tant que restaurateur, elle était la seule cuisinière. Elle devait en même temps s'occuper de sa maison en banlieue et prendre soin de ses enfants. Son premier fils a arrêté l'école jeune, pour les aider à la tenue du restaurant. Il m'explique.
À l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à travailler avec eux en fait, pour débuter, à travailler, j'ai beaucoup aidé le financement.
Désormais, leur histoire est teintée des couleurs de la réussite. Nani et sa famille sont propriétaires de 5 restaurants de cuisine indienne dans le 18e arrondissement, dont 4 proposent de la nourriture exclusivement végétarienne. Ils emploient 25 personnes. En termes logistiques, c'est aussi toute une organisation. Les légumes frais sont achetés 2 à 3 fois par semaine dans les échoppes environnantes et chaque succursale prépare dès le matin un type de plat particulier, ensuite réparti entre eux. Par exemple, une des cuisines se dédie à la cuisson des currys, tandis que l'autre s'applique à l'élaboration des biryani. Une chose me paraît encore obscure. Pourquoi tenir un restaurant indien s'ils sont Sri-Lankais? Yanni m'indique alors qu'entre l'Inde du Sud et
notre Sri Lanka, le sud de l'Inde, même culture, même langue.
De plus, la cuisine indienne est beaucoup plus populaire et connue en France. Afin d'étoffer leur menu de plats indiens, ils ont donc fait appel à des cuisiniers d'origine indienne qui leur ont partagé leur savoir-faire culinaire. Yanni prend plaisir à détailler les coutumes alimentaires de son pays. À midi, c'est le thali, composé de
une variété de curry. Donc chaque goût est différent. Vous avez du riz, vous avez à côté des lentilles, des crabes.
Avec éventuellement du poisson ou de la viande, qui est mangée à la main bien sûr, sinon...
C'est pas pareil, le goût n'est pas pareil.
Pour le petit déjeuner, elle est habituée à manger...
Une tranche de pain, vu qu'on n'a pas de barota chapati fait directement, c'est plus rapide un pain. S'il reste du curry de la veille, je prends avec ça. Ou avec, par exemple, ils vendent des bols, enfin, des petits des bocaux avec de l'oignon qui est déjà pré-cuisiné. Et c'est beaucoup très épicé.
Ou du poutou, plat sri-lankais dont elle me donne la recette.
Normalement, le riz rouge, vraiment, hein. Farine de riz rouge.
On met sur la poêle, on le fait juste relever. Juste, on met sur la poêle. Cuire à la vapeur, farine de blé. Juste après.
Pour le mélanger, ajouter un peu de sel. Après, le sucre de l'eau. Et après, ajouter les noix de coco, râper les noix de coco.
Ça, c'est pour
le bouillir. Le faire comme le faire.
Après, c'est encore une fois mis à la vapeur.
Une différence avec l'Inde? Les Indiens consomment le poutou de manière sucrée, alors que pour les Sri Lankais, c'est un plat essentiellement salé. J'ai l'impression que parler de la nourriture assimilée à l'Inde serait sans fin. On égrène le nom des plats aux saveurs lointaines. Idli, des sortes de gâteaux blancs à base de lentilles et de riz, au goût acidulé et à la texture spongieuse, souvent accompagné de sambar, une sauce principalement cuisinée à base de légumes, lentilles, noix de coco, piment rouge et oignons. Masala dosa, cette longue crêpe fourrée de pommes de terre relevées aux épices. Ladou, ces pâtisseries ultra sucrées à base de
farine de lentilles,
servies surtout lors d'occasions spéciales. Et puis les fruits exotiques, bien sûr, partie prenante de l'alimentation de ces régions.
Banane, une mangue, une pièce de mangue, le papaya, jackfruit.
Si la famille de Nani a conservé ses habitudes alimentaires, car mange
au moins sur 7 jours, 85% que de la culture, que de chez nous, flanqué tamoul ou indien.
Ils ont bien perçu le goût des Français pour le pain, consommé au cours du repas.
Tout le monde aime à côté un pain au parotta.
Sont donc proposés des
salés avec les chapatis. Parotta avec le légume. Parotta fromage avec le légume.
Les épices sont également habilement dosées pour plaire au palais européen, peu accoutumé au piquant. Nani en conclut ainsi.
Et tout le monde aime notre plat, le curry, tout le monde aime.
Son fils grandit témoigne.
Quand mes cousins, quand tout le monde, que ce soit Allemagne, Pays-Bas et Vienne, ils adorent venir manger à la maison parce qu'ils cuisinent super bien.
Ses yeux s'allument quand il parle de son plat préféré que prépare sa maman.
Son crabe, c'est incroyable.
Sans aucun doute, Nani est une excellente cuisinière. Une ultime question me traverse l'esprit. Qu'est-ce que Nani aime de la cuisine française, distante des subtilités des épices orientales? Son fils Gandhi m'indique alors...
Elle aime bien les fondus, certains fast-food, les grecs, elle adore les grecs.
À la fin de notre rencontre, Nani a tenu à m'offrir un curry d'aubergine et un parotta au fromage, bien emballé. Comme l'aurait fait une maman, tout en me parlant encore, elle replace machinalement les boîtes en plastique pour qu'elles soient bien droites et qu'elles ne fuient pas. Ça m'émeut. Sur mon vélo, j'ai l'impression de transporter une part d'un ailleurs où j'aimerais retourner. Je me promets de lui offrir en échange un gâteau au chocolat. Elle m'a avoué, dans un sourire un peu hésitant mais malicieux, qu'elle aimait beaucoup ça, le chocolat.
Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parle. Nous nous retrouvons quant à nous le troisième mardi du mois prochain, de 18h à 19h. Restez bien à l'antenne et à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM. À bientôt.